Ce matin, je vous invite à méditer un passage de l'Écriture dans l'Ancien Testament, dans le livre de Néhémie, au chapitre 8. Néhémie, chapitre 8. Je vous rappelle un petit peu le contexte. Nous sommes en 445 avant Jésus-Christ à peu près, il y a 2460 ans environ. Le peuple de Juda, qui a vécu un temps en Babylonie, une bonne partie du peuple a été exilé et revenu dans sa terre et a reconstruit le temple de Jérusalem. Puis il a reconstruit, il est en train de reconstruire, si vous voulez, la ville, les remparts. Et petit à petit, au fil des décennies, le pays de Juda se rebâtit, se reconstruit, la vie repart grâce au Seigneur qui a permis ce retour impressionnant depuis l'exil en Babylonie jusqu'au pays qui avait été promis à Abraham pour sa descendance. Donc les choses sont, en un sens, bien reparties. Et puis un jour, je commence à lire, « Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située la Porte des Eaux. Ils demandèrent à Esdras, qui était spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse donné par l'Éternel à Israël. Le premier jour du septième mois, Esdras, qui était aussi prêtre, apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient en âge de comprendre ce qu'ils entendaient. Il leur lut dans le livre depuis l'aube jusqu'à midi sur la place qui est devant la Porte des Eaux. Tout le peuple était attentif à la lecture du livre de la loi, hommes, femmes et tous ceux qui étaient en âge de comprendre. Esdras se tenait sur une estrade de bois dressée pour la circonstance. À sa droite se tenaient Matitia, Shema, Anaya, Uri, Ilkia et Maaseya. Et à sa gauche, Pedaya, Mikaël, Malkia, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Comme il était placé plus haut que tout le monde, chacun le vit ouvrir le livre. À ce moment-là, tous se levèrent. Esdras loua l'Éternel. Un petit peu en avance. Esdras loua l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple s'écria « Amen, Amen » en levant les mains. Puis ils s'inclinèrent jusqu'à terre et se prosternèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alors Josué, Bani, Sherebia, Yamin, Akoub, Shabetai, Odia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Anan, Pelaya et les autres Lévites expliquèrent la loi au peuple qui se tenait debout. Ils lisaient dans la loi de Dieu et expliquaient au fur et à mesure, de façon posée et distincte, afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Alors Néhémie, le gouverneur, Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi, et les Lévites qui donnaient des explications au peuple, dirent à tous, « Ce jour est un jour de fête consacré à l'Éternel votre Dieu. Ce n'est pas le moment de pleurer et de prendre le deuil. » Puis Esdras ajouta, « À présent, allez faire un bon repas. Buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé. » Car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que dans l'Éternel est votre force. De leur côté, les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Soyez tranquilles, car ce jour est consacré à Dieu. Ne vous attristez donc pas. » Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. Jusqu'ici, notre lecture. Je voudrais relever simplement quatre choses qui sont frappantes dans ce texte, d'où mon plan. Quatre choses qui sont frappantes dans ce texte que l'on peut prendre comme des petites leçons pour nous, peut-être, je l'espère. C'est un passage qui se situe il y a bien longtemps, à une époque où la lecture de la Bible était nettement différente de celle qu'on a aujourd'hui. Les gens n'avaient pas un livre bien relié dans leurs mains, mais ils avaient des rouleaux, vous savez, qu'on déroulait, des rouleaux de papyrus en général, parfois de parchemin. Et la situation était bien différente, mais l'attitude des gens est une véritable leçon pour nous. Alors revenons sur quatre points. Le premier, c'est un grand respect face à la Bible. Un grand respect face à la Bible. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le peuple entier s'est levé à la lecture de la loi. Le peuple entier s'est levé à la lecture de la loi. Il s'est prosterné après une bénédiction. Mais apparemment, il reste debout ensuite, il se remet debout, apparemment pendant toute la lecture. En fait, il faut savoir que c'est une pratique qui existe dans le judaïsme. Dans le Nouveau Testament, on n'en dit pas grand-chose, si ce n'est que Jésus, le jour où il a fait une prédication à Nazareth, s'est levé pour lire dans le rouleau d'Ésaïe, et après il s'est assis pour enseigner. Il s'est levé au moment de la lecture. Ce qui est certain, c'est que dans les synagogues, encore aujourd'hui, on se lève, comme on peut voir, on se lève lorsqu'on va chercher la Torah. C'est la Torah, ça veut dire la loi. Et vous avez à gauche un monsieur qui montre, alors il n'ose pas toucher le texte, hein, on touche avec une sorte de stylet, on voit un rouleau qui est dans une sorte de boîte, un petit peu de cylindrique, on le place ensuite dans une petite armoire, à un endroit de la synagogue, et on dit qu'on sort la Torah de l'arche, et puis on la présente au peuple, qui se lève. Et dans certaines synagogues, on reste debout pendant toute la lecture. Le samedi matin, ça va, 30 à 45 minutes debout. Alors, il n'y a pas que chez les Juifs qu'on fait cela. Il faut savoir que dans les églises, dans au moins certaines églises luthériennes, je ne suis pas un spécialiste, on a un système de lecture en trois temps le dimanche matin. On lit d'abord quelque chose dans l'Ancien Testament, puis un passage dans les Épîtres du Nouveau Testament, puis un passage dans les Évangiles. Et pour la lecture des Évangiles, tout le monde se lève. Alors, quand je vais avec mon épouse Sarah en Angleterre, dans une église anglicane, au moment où on lit les Évangiles, alors c'est l'image suivante, voilà, vous voyez le prêtre, hein, qui avait rendu pasteur, s'avance au milieu du peuple avec une Bible et il lit dans l'Évangile et tout le monde se lève pour la lecture de l'Évangile. Alors, à mes yeux, ça serait bien de se lever aussi pour l'Ancien Testament, mais ça, c'est une déformation professionnelle, pour les Épîtres, hein, parce que c'est aussi bien inspiré, mais bon, je ne vais pas insister là-dessus. Alors, 30-45 minutes, dans les églises orthodoxes ou orientales, souvent, on reste debout pendant toute la séance, tout le culte. J'ai assisté un jour à un office éthiopien, en région parisienne. Hein. C'était la Pâque, ça devait durer 4 heures, et c'était 4 heures dans le froid, debout. Alors, je crois qu'avec mon groupe, on n'est pas resté pendant les 4 heures, et j'avais un petit peu honte, parce qu'il y avait des gens nettement plus âgés que moi devant, qui restaient debout, vaillamment, alors que moi, je priais, Seigneur, permets que ça s'arrête, ou... enfin, permets qu'on ait le droit de s'asseoir, hein. Pas le culte, mais pour être parfaitement honnête, hein. C'est quand même le signe que je n'ai pas trop l'habitude. Mais quand on y réfléchit bien, cela en dit long sur le respect face à l'Écriture. Aujourd'hui, en quelles occasions nous levons-nous dans la vie courante, Alors, chacun aura peut-être des situations en tête. Hein. Moi, je pense par exemple au mariage. Vous savez, il y a des moments dans le mariage, surtout au moment des vœux. Alors là, on essaie de se lever, c'est un peu solennel. Parce qu'on respecte ça, c'est quelque chose de profondément important dans la vie des gens qui s'unissent ce jour-là. Quand vous avez des examens, vous avez vraiment des grands examens, des soutenances de mémoire, à la fin, tout le monde se lève pour entendre l'énoncé. Un tel ou une telle a bien eu tel diplôme avec telle mention. Parce que c'est quelque chose d'important. Et autant on est très informel dans notre génération, enfin dans notre époque, autant il y a des moments où on fait cela. C'est un petit peu comme quand vous allez au théâtre ou quand vous écoutez un concert de musique classique, tout le monde se retient de tousser. Et puis quand c'est l'entracte, tout le monde tousse. Mais on se retient parce qu'il y a quelque chose qu'on respecte. Alors là, le fait de se lever pour la lecture de la Bible, ça dit quand même quelque chose d'intéressant. Et si nous y réfléchissons, nous, dans nos propres cultes, nous nous levons finalement quand nous parlons à Dieu. Pour chanter, parce qu'il y a une certaine dynamique, c'est normal, il y a un élan, mais on ne le fait pas tellement quand on lit la Bible. C'est plutôt très rare, en fait, hein, de se lever pour la lecture de la Bible. Je ne suggère pas qu'on modifie notre liturgie locale, hein, ce n'est pas ça la suggestion, mais il y a quelque chose quand même d'édifiant dans cette attitude-là. Et on pourrait essayer de se lever dans notre cœur quand on écoute la parole de Dieu. Parce que finalement, la seule chose qui est absolument parfaite le dimanche matin, c'est la Bible. Hein. Bon, les traductions sont parfois plus ou moins parfaites. Mais ça, c'est un test que Dieu nous donne. Le reste, c'est notre louange qui est imparfaite, on fait du mieux qu'on peut. Mais c'est quand même la parole de Dieu. Chaque mot de l'Écriture, Dieu le signe. Il a laissé les auteurs inspirés s'exprimer avec leur style, leur façon de faire. Mais c'est l'Écriture, c'est la parole que Dieu a voulu nous donner. elle est revêtue d'une autorité suprême aux yeux des croyants, en tout cas les croyants les plus fidèles à l'Écriture, je pense. Et il ne faudrait pas, sous prétexte qu'on a l'habitude, on a chacun la Bible à la maison, on en a dans les poches, on a un accès facile à cela, c'est devenu presque banal, il ne faudrait pas que ce soit un texte banal à nos yeux. Hein, vous savez, dans d'autres pays, vous allez en Chine par exemple, avoir une Bible, dans certaines régions en tout cas, c'est la fête. Hein. Quand vous avez une Bible pour une église, il n'y a pas qu'en Chine. Hein. Des pays où c'est une grande joie d'avoir un seul exemplaire de la Bible. Alors que le Seigneur nous accorde de nous lever, au moins dans notre cœur, d'avoir cette posture de solennité, quand nous lisons la Bible, nous rappelons que c'est la parole inspirée par le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Aujourd'hui, on a parfois tendance à discounter l'autorité de la Bible. Il y a des débats parfois vifs sur l'éthique, les choix de vie, où l'autorité de la Bible est parfois bafouée, tout simplement. Ça a fait des grands bruits il n'y a pas très longtemps, des débats assez durs qui se poursuivent. Et parfois, on prend prétexte du fait qu'il y a des désaccords dans l'interprétation de la Bible. Oui, de toute façon, il y a plein d'interprétations, donc ce n'est pas grave. Et en réalité, quand on dit ça, souvent, on cache le fait que le problème profond qui touche les gens et qui déplaît à certains, c'est la question de l'autorité de la Bible. Parce qu'il y a des passages sur lesquels tout le monde est d'accord pour le sens, l'interprétation, mais tout le monde ne sera pas d'accord pour l'appliquer. Donc c'est une question où il faut savoir où nous nous situons, quelle autorité nous accordons à l'Écriture. Cela étant dit, il y a un deuxième point sur lequel je voudrais insister, qui me frappe, c'est l'implication du peuple dans ce texte, au-delà de se mettre debout. L'implication du peuple dans cette cérémonie. Vous avez peut-être remarqué d'abord qu'on a l'impression que c'est le peuple qui veut qu'Esdras lui lise, lui explique la Torah. Je relis le début du texte. « Tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. Ils demandèrent à Esdras, le spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi de Moïse. » Mais c'est le peuple qui demande à Esdras de lui lire, de lui expliquer la loi. Une part d'initiative du peuple. Et d'ailleurs, dans le passage suivant, on verra que le peuple se rassemble à nouveau pour étudier la loi. Apparemment, ils ont pris le pli, ça les a intéressés, et on va voir que, enfin, vous verrez si vous lisez la suite, que le peuple se met en mouvement à cause de cette lecture de la loi et de ce qu'on y trouve. Ça les oblige à agir. Ici, ça va les amener à pleurer, tout simplement. Donc, initiative du peuple. Et ce qui est vraiment frappant, c'est que c'est tout le peuple. Les hommes, les femmes, et les enfants, ceux qui peuvent comprendre. C'est une façon sans doute de parler des enfants. Ça n'est pas, ou ça n'est plus, simplement une affaire de spécialistes de la loi, de prêtres, et ça ne se passe même pas au temple. Autrement dit, ça devient une sorte de fête commune. Ça se passe à un endroit qui est une porte de Jérusalem, et vous savez peut-être que dans l'Antiquité, les portes d'une ville, c'était les endroits devant lesquels on se rassemblait. On pourrait dire que c'est la place du village. Même si aujourd'hui, c'est la place de la grande ville, une grande place dans une ville, si vous voulez. Là, le peuple peut se réunir. Ce n'est pas un endroit dans le temple réservé aux prêtres ou aux hommes éventuellement. C'est pour tout le monde, même les enfants. Donc il y a une sorte de démocratisation, c'est peut-être pas peut-être anachronique, mais une sorte d'élargissement de l'accès au texte qu'on voit dans ce passage. Et ce n'est pas tellement nouveau dans la Bible. Au moins pour le concept, pour l'idée. Je vais vous lire un extrait du Deutéronome, cinquième livre de la Bible, hein, où on a la loi qui est donnée par Moïse, réexpliquée par Moïse, si vous voulez, reformulée. Je vous lis un extrait, Deutéronome 6, versets 6 à 9. Il parle des commandements que Dieu a donnés. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, pas juste sur le livre, pas juste sur le rouleau. Tu les inculqueras à tes enfants. » Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux, tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Vous avez peut-être vu parfois, si vous allez en Israël, hein, sur les maisons, il y a une petite, à côté de la porte de chaque maison, vous avez un petit cylindre en fait, qui est censé contenir C'est un petit morceau de la loi. Et il y a parfois des juifs orthodoxes, très stricts, qui portent des phylactères, des parfois une petite boîte sur le front comme ça, pour appliquer de manière très littérale ce qui est dit ici. En fait, pour tout vous dire, quand je lis ce passage et qu'on me dit « quand tu toucheras, quand tu lèveras », j'ai plutôt l'impression que c'est la consultation de mon smartphone. Et parfois, on lit le matin, alors j'ai reçu un mail, il y a quelque chose de nouveau, etc. Aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Mais la frénésie avec laquelle nous consultons nos téléphones pour Internet, etc., c'est un petit peu ça que le texte nous encourage à faire pour la Bible. Être un petit peu passionné par la Bible, en parler à ses enfants, à la limite écrire des versets sur les murs de sa maison, enfin juste pour se rappeler, hein, pas pour être. C'est pas la superstition, mais il y a vraiment quelque chose de ça, une envie de la Bible. Et là, une envie qui s'étend jusqu'aux enfants et aux femmes. Le peuple est tellement content de tout cela qu'avant même la lecture de la Bible, entre le moment où on ouvre le rouleau, on cherche la page, si vous voulez, on dirait aujourd'hui, puis le moment où on lit, il y a une bénédiction. On a l'impression qu'on bénit le Seigneur, on le remercie de cette lecture possible, de ce don de la loi. Vous savez, souvent on bénit le Seigneur au début d'un repas. Là, c'est pour la loi. Dans le judaïsme, et c'est l'image suivante, je pense, il y a même une fête aujourd'hui. On appelle ça Simrat Torah. Ça se prononce comme ça, la joie de la Torah. Une fête qui se situe, alors, si dans le calendrier des fêtes juives, c'est à peu près une semaine après la fête dont on est en train de parler là. Et c'est une fête dans laquelle on marque la fin d'un cycle de lecture. Il y a un cycle de lecture dans les synagogues où on parcourt ce qu'on appelle la Torah au sens le plus strict, c'est-à-dire la loi, certains disent le Pentateuque, comme vous voulez, hein, c'est pareil, c'est les cinq premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Parce que c'est un petit peu le cœur de la Bible pour les Juifs. C'est là que Dieu révèle une loi à son peuple, les commandements, les 10 commandements, etc., et fait alliance avec eux. C'est vraiment fondamental pour eux. Et ils célèbrent là la fin d'un cycle de lecture. Et dans au moins une partie des synagogues, on lit le dernier passage dans le Deutéronome, et pour marquer le coup, on revient au premier passage de la Genèse. Pour dire, on redémarre un nouveau cycle. Un cycle de lecture en commun, comme ça, il y a un programme de lecture. Ce n'est pas qu'ils ne lisent que dans la loi, que dans les cinq premiers livres, mais c'est quelque chose qui marque particulièrement par une cérémonie joyeuse, c'est une journée de joie. Et vous avez des gens, j'ai vu ça à Jérusalem, hein, devant le mur des Lamentations, des juifs orthodoxes qui se baladaient avec un rouleau qui tournait en rond en dansant. Et voilà, c'est vraiment un jour de joie, ce n'est pas une fête qui est prescrite dans la Bible, mais qui est venue comme ça dans l'histoire du judaïsme. C'est peut-être aussi une façon de marquer, de montrer le fait que cette Torah, c'est un élément fondateur pour la vie des gens. Une des joies qui semble ressortir également du texte pour le peuple, c'est la joie de comprendre. Il y a plusieurs endroits où on insiste sur le mot, le verbe « comprendre ». Et vous voyez, regardez à la fin, alors que le peuple est en train de pleurer, il y a vraiment... Alors, Esdras et puis les Lévites, c'est des sortes d'assistants des prêtres, hein, qui sont responsables un peu du culte, en partie, qui leur disent « mais soyez tranquilles, ne vous attristez pas, c'est un jour de joie aujourd'hui, on y reviendra ». Regardez le verset 12. « Alors tous allèrent manger et boire, faire porter des parts aux pauvres et organiser de grandes réjouissances, car ils avaient bien compris les paroles qu'on leur avait enseignées. » Ce verset suggère que le fait d'avoir bien compris le texte, ça leur donne une joie et ils se livrent à de grandes réjouissances. Le fait d'avoir bien compris le texte. Ce qui me pose la question de savoir si, pour nous, comprendre la Bible, lire la Bible et comprendre la Bible, c'est quelque chose d'aussi important que ça l'a été pour eux ce jour-là. Et je voudrais tout simplement faire la publicité, alors pas, j'ai aucune action ni rien, mais la publicité pour vous montrer plusieurs façons que vous avez de lire la Bible. Et l'ami, vous n'avez aucune excuse, façon de parler, hein, qui suis-je pour dire ça, mais si vous ne trouvez pas le temps de lire la Bible. Alors j'exagère bien sûr, mais c'est pour marquer le coup. Je voudrais que nous soyons un peuple aussi impliqué dans la lecture de la Bible qu'il était eux. Et regardez les moyens que nous avons à disposition. Je prends le plus moderne. L'image suivante, vous avez des applications sur vos smartphones pour lire la Bible. Gratuites, hein. Une action payante, une action gratuite. D'ailleurs, je serais curieux de voir s'il y en a parmi vous qui en ont. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont une application? Oh là 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 là, ça fait plaisir. Maintenant, qui l'utilise vraiment? Ouais, bon score, hein? C'est bien les jeunes en particulier, hein? Je vois que vous êtes branchés, hein? Super, vous pouvez lire ça dans le métro, aux toilettes, où vous voulez, c'est fait pour, vous l'avez partout. Merci Seigneur qu'il y ait autant de gens qui lisent la Bible. Alors, vous pouvez toujours dire, oui, mais attends, la Bible, c'est quand même un petit peu long. Eh bien, il y a un défi qui est lancé depuis quelques temps, c'est l'image suivante, c'est la Ligue pour la lecture de la Bible. Bon, Ligue pour la lecture de la Bible, ça donne bien son nom, hein, ça porte bien son nom. Vous avez un programme, la Bible en 100 textes essentiels, un défi personnel. 100 textes choisis dans la Bible. Je crois que c'est 50 dans l'Ancien Testament, 50 dans le Nouveau. J'aime cette répartition, c'est juste. Ne néglige pas l'Ancien Testament. Et vous avez un livre pour cela. Vous avez une application. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer dans le défi si vous voulez goûter au texte. Vous savez, parfois, on écoute des samples, hein, des extraits, pour voir si telle chanson, tel album nous plaît. Là, si vous voulez vous initier à la Bible sans tout lire, vous pouvez faire ça. Il y a des programmes pour vous motiver à lire la Bible. Et puis, si vous êtes plus classique, vous pouvez faire la chose suivante. Avoir un programme de lecture, par exemple, le programme en 6 ans. Et en fait, ce que j'ai lu ce matin, Néhémie 8, c'est la lecture qui est recommandée, enfin, suggérée pour le culte du dimanche, aujourd'hui, dans ce petit calendrier. Vous avez un petit programme de lecture pour chaque jour qui vous aide à faire un cycle comme ça. Bon, très bien, il y a plein de choses pour cela. Il y a également une chose qu'on néglige souvent, alors que c'est particulièrement important, c'est les oreilles. Image suivante. Vous avez maintenant la Bible en fichier MP3, en audio, en CD, etc. Et il y a des gens qui préfèrent écouter la Bible que la lire. Et c'est loin d'être anormal, puisque dans l'Antiquité, c'était comme ça que ça fonctionnait. Et pendant des siècles, mis à part peut-être les prêtres, les prophètes ou des gens comme ça, c'était de manière auditive qu'on recevait la Bible. Et je trouve que c'est un certain plaisir. Parfois, je fais exprès de ne pas lire dans ma Bible dimanche matin et de me laisser lire le texte. Alors, on lit plus ou moins bien, je lis plus ou moins bien, il y a des gens qui savent très bien le faire. Mais écouter le texte, ça peut vous frapper d'une manière nouvelle. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience d'écouter un livre enregistré en audio. On a essayé avec ma femme cet été. C'était impressionnant, dans la voiture. Eh bien, vous pouvez écouter la Bible, comme ça. Vous avez des fichiers gratuits sur Internet, d'autres qui sont payants, comme vous voulez. Vous avez la Bible enregistrée en entier, à votre disposition. Vous pouvez écouter ça en faisant la cuisine, en changeant les couches des enfants, etc. En faisant le bricolage, comme vous voulez. Mais ne négligeons pas cela, parce qu'il y a une bonne partie d'entre nous qui fonctionneront plus aux oreilles qu'aux yeux. Et ça nous marque parfois, ça nous renouvelle la lecture. Si vous écoutez l'anglais, Denzel Washington a participé à un programme comme ça de lecture de la Bible. C'est enregistré, c'est en CD. Vous avez Denzel Washington qui vous lit le récit du déluge, je crois, des choses comme ça. Ça a du panache. C'est un exemple de star qui a fait ça. Très bien. Mon point suivant, le troisième point, c'est l'importance de l'explication. Jusqu'ici, c'était lire la Bible, qui peut être une grande joie pour nous. Et on a pas mal d'aides pour le faire aujourd'hui, hein. Plusieurs supports. Mais encore faut-il la comprendre. Et vous avez vu dans ce texte, je l'ai déjà dit, qu'il y a plusieurs versets qui évoquent la compréhension de l'Écriture. Je vous relis le verset clé. Ils, donc les gens qui lisent la loi, qui vont l'expliquer, lisez dans la loi de Dieu et expliquez au fur et à mesure, de façon posée et distincte, afin que chacun puisse comprendre ce qu'ils avaient lu. Alors les spécialistes ne sont pas tous d'accord sur la traduction de ce verset. Certains disent, en fait, plutôt que de dire qu'ils expliquaient de façon posée, sur à mesure, il faudrait comprendre qu'ils traduisaient. Parce que le peuple qui avait été en exil pendant un temps s'était sans doute mis à parler araméen et plus hébreu. L'hébreu, c'est la langue des textes. L'araméen, c'est devenu la langue courante. C'était la langue maternelle de Jésus. Alors, il se peut qu'il y ait eu besoin de traduire la Bible comme ça. Il se peut, c'est possible, c'est pas sûr. D'autres disent, voilà, comme dans notre texte, ils expliquaient au fur et à mesure. Ils lisaient un passage, et puis ils expliquaient, peut-être qu'ils se baladaient, les Lévites, de groupe en groupe, pour dire, vous avez compris, je vous explique. Véritablement une explication du texte. Peu importe, parce que ce qui est sûr, c'est qu'ils faisaient le maximum, de manière pédagogique, pour que le peuple comprenne. Et je vous rappelle qu'à la fin du texte, un émotif de joie du peuple, c'est d'avoir compris l'écriture qu'on leur avait lue. Il faut se rappeler qu'ils ne la lisaient pas tous les jours. Ça faisait sans doute longtemps qu'ils n'avaient pas lu tout ça. Alors, ça nous pose la question, est-ce que, au-delà de la lecture, parce qu'on peut lire à 200 à l'heure, est-ce que, au-delà de la simple lecture, nous avons comme objectif dans notre vie de mieux comprendre l'écriture ? De mourir en ayant une compréhension de l'écriture beaucoup plus profonde que celle que nous avons au moment où nous rencontrons le Seigneur, par exemple. Est-ce que c'est vraiment un objectif pour chacun d'entre nous que de croître dans notre compréhension de la Bible ? Pas pour des questions intellectuelles, c'est vraiment pas ça le sujet. Simplement pour mieux comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers elle, pour progresser avec lui. C'est à chacun de se poser la question, est-ce que c'est un objectif ? Ou est-ce que nous restons passifs ? Vous savez, si vous restez juste à écouter ce qu'on vous dit le dimanche matin, il y a à peu près 52 semaines dans l'année, alors on va enlever 2 semaines pour les vacances, au moins 50, je triche un petit peu. Dans le meilleur des cas, on lit un chapitre entier, je ne l'ai même pas fait ce matin, parce que parfois un passage ne fait pas un chapitre entier. Mais imaginons qu'on fasse un chapitre entier tous les dimanches, à la fin de l'année, vous avez lu 50 chapitres, on vous a expliqué 50 chapitres à peu près, vous avez lu la Genèse. La Genèse, premier livre de la Bible, hein, et la Bible, il y en a 39, c'est pas ce que je compte, 66, je comptais l'Ancien Testament. Certains sont plus petits, certains sont épais, voilà, peut-être dans 15-20 ans, vous aurez lu toute la Bible. Alors je dis ça pour dire que voilà, c'est bien de lire en dehors et d'essayer de comprendre la Bible, même en dehors des explications du dimanche matin. Vous avez l'étude biblique, un privilège, vous avez un spécialiste de la Bible, hein, Fred, notre pasteur, Frédéric Hubo, qui vous explique des passages de l'Écriture. Alors, il n'y a pas que Fred, d'ailleurs, qui en fait, je pense. Et ça, c'est une véritable chance qu'on peut y aller. Mais je voudrais insister sur une réalité, c'est que nous ne sommes pas en 445 avant Jésus-Christ. Les moyens dont nous disposons pour comprendre la Bible aujourd'hui sont démultipliés par rapport à ce qu'il y avait à l'époque. Vous avez quantité de moyens d'accéder à une compréhension du texte supérieure. Vous avez la possibilité d'avoir des gens qui vous expliquent la Bible chez vous, dans ce qu'on appelle, par exemple, une Bible d'étude. Alors, je crois que c'est l'image suivante. J'ai mis plusieurs exemples, je ne fais pas de publicité pour l'une en particulier. Vous avez quantité de Bibles qui existent en français, on a vraiment beaucoup de chance. On a des bonnes Bibles, parfois meilleures qu'en anglais, pour une fois. Des ressources vraiment impressionnantes, avec des Bibles qui vous donnent non seulement le texte, mais des explications. Regardez l'image suivante. C'est un exemple, juste que vous voyez à quoi ça peut ressembler. Pour ceux qui n'en ont pas, vous avez le texte en haut, et en bas de page, plein d'explications, parfois verset par verset. Puis des cartes. À droite, on vous a montré à quoi ressemblent un petit peu les habitations du temps d'Abraham. C'est juste pour prendre un exemple. Et je crois que c'est particulièrement important pour les chrétiens d'utiliser ce genre d'outils. C'est comme si vous aviez un spécialiste qui vous explique le texte au fur et à mesure, à côté de vous, à domicile. Pas que ces choses-là soient parfaites, mais vous avez amplement le choix. Vous n'avez pas besoin d'inviter votre pasteur 24 heures sur 24 chez vous pour qu'il vous explique. Ça a déjà été fait, mais sur papier, en quelque sorte. Donc, il faut en profiter. Je serais curieux de savoir si certains d'entre vous en ont. Une Bible d'étude. C'est pour ma curiosité, pour un peu. Très bien. Il y a même, je sais, dans quelques semaines ou quelques mois, une Bible d'étude qui va sortir spécialement pour les jeunes. Alors les jeunes, 15-35 ans. Hein. Moi, je suis déjà plus dedans, c'est fini. Désolé, hein. Ouais, je suis jeune, mais c'est ce qu'on me dit, mais j'y crois plus. Hein. Voilà. J'ai passé les limites. Voilà, donc quantité de moyens, et vous avez même, regardez, alors je prends un exemple que j'ai trouvé, c'est pas pour faire de publicité particulière, hein, même si c'est une bonne Bible, vous avez la Summer qui existe maintenant en application. Et ça coûte pas grand-chose, et vous avez l'application sur votre smartphone, une Bible d'étude carrément. Pas juste la Bible, Bible d'étude. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, hein, je fais ce que j'ai pu comme recherche, mais c'est quand même impressionnant l'accès qu'on a aux explications sur la Bible. Il faut regarder ça en notant bien que le texte biblique s'est inspiré et les explications ne le sont pas forcément parfaits à chaque fois, mais c'est une aide puissante pour progresser dans notre compréhension de la Bible. Alors, autant il est bon de lire de manière cursive, rapide l'Écriture, autant il est bon de la comprendre, de la savourer et de s'en imprégner pour que l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs, nous rappelle ces passages-là le jour où nous en aurons besoin et que nous puissions un petit peu être édifiés, pas que des croyants passifs. Si les gens de l'époque avaient eu ça à disposition, ils seraient devenus fous. Oh, génial, une explication sur mon smartphone, etc. Je vais vous quand même attirer votre attention sur un danger, un véritable danger que j'ai vu, entre guillemets, sous mes yeux. C'est la difficulté qu'on a face à Internet. Parce que sur Internet aussi, vous avez quantité de choses. Quantité de sites Internet, quantité d'explications. Et il y a boire à manger. Je ne sais jamais s'il y a boire et à manger. Si boire, c'est bon et manger, c'est mauvais d'ailleurs. Mais il y a boire et à manger, comme on dit. Il y a prendre et surtout à jeter. Il y a beaucoup plus à jeter qu'à prendre. Il y a plein de choses géniales et plein de choses vraiment qui vous induisent en erreur dramatiquement. J'avais un ami qui a travaillé en Tunisie, dans une église, et qui disait que tous les problèmes doctrinaux, vous savez, les problèmes vraiment sur les questions de foi essentielles, qu'ils ont rencontrés dans leur église, c'était à cause d'Internet. Vraiment pas de chance. Mais des gens qui racontent des âneries, choses complètement fausses sur Dieu, Jésus-Christ, la Bible, etc., sur Internet. Et certains, une personne de bonne volonté qui cherche à mieux comprendre, tombe dessus, sont impressionnés par ce qu'elles lisent et ne se rendent pas compte qu'on leur dit des âneries, des choses qui vont parfois changer leur vie spirituelle. Des enseignements profondément pervers, pour être franc. Alors là, je vous incite à la prudence. Et puis, vous pouvez très bien demander conseil à votre pasteur ou à des gens du conseil, des gens un petit peu sérieux. Ce n'est pas que les autres ne sont pas sérieux, mais des gens qui, en principe, feront attention de ne pas vous dire de bêtises et de vous guider un petit peu. Il n'y a pas de guide du routard pour ça, mais ça serait bien. Mais simplement qu'on vous dise, mais est-ce que ce site est sérieux? Ou qu'est-ce que tu me conseilles comme site sur tel sujet? Ça, je vous garantis qu'il y a des croyants qui dérivent, certains qui perdent la foi à cause de ça. Donc j'ai eu parfois des gens avec qui j'ai parlé de ce sujet. C'est vraiment souvent douloureux. Alors mon dernier point, c'est le plus positif, c'est la joie du Seigneur. Je vous relis le verset qui parle de cela et qui est frappant. C'est Esdras qui dit « À présent, allez faire un bon repas, buvez d'ex... » Alors, dans certaines traductions, vous aurez peut-être « prenez de la graisse ». Juste si on a qui ont lu ça, c'est parce que la graisse, à l'époque, c'était bien coté. Vous savez, on faisait parfois fumer de la graisse et des sacrifices. Et apparemment, ça avait une bonne odeur. Aujourd'hui, ça ne serait pas exactement les mêmes façons de parler. Peu importe. « Allez faire un bon repas, ça traduit bien les choses. » Buvez d'excellentes boissons, des liqueurs douces, on dit dans certaines Bibles, et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, pour pas qu'il y ait des gens qui restent un petit peu sur le côté. Car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur, c'est un jour pour Dieu. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Dans beaucoup de Bibles, on a simplement la joie du Seigneur. Et certains se sont demandé, mais est-ce que ce n'est pas plutôt la joie que Dieu éprouve ? Ce serait une autre lecture. Quand on dit la joie du Seigneur, soit c'est la joie du Seigneur en propre, celle qu'il a, lui, il est joyeux, parce qu'il voit son peuple qui se réunit pour lire la Bible. Et puis, il y a l'autre version qui dirait, non, c'est la joie qu'on prend dans le Seigneur, que nous donne le Seigneur, comme dans la traduction que j'ai lue. Et c'est sans doute cette deuxième compréhension, la joie que donne le Seigneur qui est juste. Parce que c'est une réponse à la tristesse du peuple. Et puis, c'est quelque chose qui concerne les jours de fête. Et les jours de fête sont des jours joyeux dans le judaïsme. La joie que donne le Seigneur. Ce qui est frappant ici, c'est que cette joie surpasse la tristesse que les gens pouvaient avoir. Imaginez ces gens qui entendent la loi. Lisez le Lévitique, le Deutéronome, l'Exode, toutes ces prescriptions, et qui se disent, cette loi, on a désobéi, mes parents ne l'ont jamais fait. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas observé ta commandement, etc. Les gens étaient bouleversés, apparemment, de voir qu'ils n'avaient pas été à la hauteur face aux exigences des commandements de Dieu. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. D'un côté, j'ai envie de dire, mais Esdras, vas-y, profite, ils se repentent enfin, ils réalisent leur tort, on va faire une bonne réforme religieuse, c'est ce qu'auraient voulu bien des prophètes. Vous savez, les siècles précédents, il y a eu plein de prophètes qui ont dit au peuple, mais changez de comportement. Là, vous n'obéissez pas au commandement. Là, vous n'êtes pas fidèle à Dieu. Là, vous dérivez face à Dieu. Ça ne plaît pas à Dieu ce que vous faites. Et le peuple, en général, n'écoutait pas. C'est pour ça qu'ils sont partis en exil à Babylone. C'était une sanction. Pour une fois, ils pleurent de tristesse face à leur désobéissance. Eh bien, la réaction d'Ezra, c'est paradoxal. Elle n'est pas de dire, oui, vous pleurez, ben on va prier, vous allez demander pardon à Dieu, etc. Non, ça va se faire plusieurs jours plus tard dans le texte, au chapitre 9, si vous êtes curieux. Chapitre suivant. Non, là, on a l'impression d'être à contre-temps, mais Esdras leur dit « Soyez joyeux ». Avec deux raisons, c'est un jour consacré à Dieu, c'est un jour de fête pour Dieu, et le principe, c'est qu'on se réjouit en Dieu. Et la joie du Seigneur, c'est ça qui va vous fortifier. Il y a des gens qui, quand ils lisent la Bible, se sentent un petit peu accusés. Ça nous arrive tour à tour, certains sont plus sensibles que d'autres à cela, mais il y a pas mal de choses face auxquelles on ne se sent pas trop à la hauteur. Là, les questions de pardonner aux autres, d'aimer son prochain comme soi-même, etc. Quand on lit ça, on peut parfois se rendre compte qu'on n'est pas vraiment à la hauteur. Martin Luther, le grand réformateur, disait qu'on est simultanément, en tant que chrétien, on est simultanément juste et pécheur. Parce que grâce à Jésus-Christ, nous sommes justes devant Dieu. Mais en même temps, on se rend compte que concrètement, on fait encore des péchés, du mal. Et ce n'est pas toujours facile à vivre, c'est cette double réalité. Et bien, dans ce texte-là, on voit la joie du Seigneur qui éclipse la tristesse, qui passe par-dessus tout ça. Et ça semble être porté par une bonne explication et compréhension du texte. La joie du Seigneur sera votre force. Alors que le Seigneur nous donne de respecter sa parole autant que le peuple de Dieu l'a respecté ce jour-là, de la regarder sans oublier d'avoir une part de solennité face à ce texte inspiré. Que le Seigneur nous donne de nous impliquer autant que le peuple ce jour-là pour lire sa parole par tous les moyens possibles, tous ceux qui nous plaisent. Qu'il nous donne d'apprécier l'enseignement et de le rechercher, un bon enseignement. Nous n'avons plus d'excuses aujourd'hui, les enseignements sont bien disponibles. Et puis enfin, qu'il nous donne de se réjouir en lui, que ça nous fortifie, et que ça nous aide à dominer des sentiments de culpabilité. Il y a un temps pour la repentance, pour se placer devant Dieu et lui demander pardon, mais il y a un temps pour se réjouir, et la tonalité que préfère le Seigneur, c'est la joie fondée sur lui. Amen.